Gloire à Dieu. C'est toujours avec joie que nous nous retrouvons dans la communion fraternelle, mais aussi bien sûr dans la présence du Seigneur. Et c'est toujours aussi avec joie, mais aussi avec beaucoup de respect et d'humilité que nous voulons ouvrir la parole de Dieu. Tellement important de savoir que Dieu nous a laissé cette parole. Ça n'est pas anodin, ça n'est pas quelque chose de superficiel. C'est une lettre d'amour, mais c'est aussi une lettre d'enseignement. C'est aussi une lettre d'avertissement. Tout cela, nous le trouvons dans la parole de Dieu. Et tout cela est fait avec son amour et sa grâce. Mes enfants souvent se moquent de moi parce que je dis souvent « miséricorde insondable ». C'est vrai. Quand on voit tout ce qui se passe, quand on vit, on se dit s'il n'y avait pas la miséricorde de Dieu, hein, cette main tendue du Seigneur qui ne nous traite pas selon ce que nous méritons, mais qui nous fait grâce. Que son nom soit béni. S'il fallait donner un titre au message de ce matin, et pour vous aider peut-être à retenir, on va dire, la pensée principale, c'est rendre grâce et prendre courage. Ça va comme résumé, vous allez pouvoir retenir. Et ça, c'est valable non seulement aujourd'hui, mais c'est valable pour tous les jours. Rendre grâce et prendre courage. C'est quand on dit merci au Seigneur pour tout ce qu'il a fait, pour tout ce qu'il est, pour tout ce qu'il va faire encore, que nous allons pouvoir justement être en plus encouragé, encore plus encouragé, et repartir de plus belle avec le Seigneur. Alors, on va lire ensemble quelques versets dans l'Épître aux Romains, au chapitre 1. Nous lisons les versets 10 à 12. Romains, chapitre 10, chapitre 1, versets 10 à 12. C'est au travers d'une expérience de l'apôtre Paul que nous allons rendre grâce ce matin et prendre courage, comme lui, eh bien, l'a vécu. Romains 1, verset 10. Constamment, je lui demande d'avoir enfin, dans le cadre de sa volonté, le bonheur d'aller chez vous. Je désire en effet vous voir pour vous communiquer un don spirituel, afin que vous soyez affermis, ou plutôt, afin que nous soyons encouragés ensemble chez vous par la foi qui nous est commune à vous et à moi. Et puis nous lisons dans Actes, donc vous tournez la page à l'envers, vous revenez en arrière, Actes 28, verset 15. Actes 28, verset 15. Les frères de Rome qui avaient reçu de nos nouvelles sont venus à notre rencontre jusqu'au forum d'Appius et aux trois vernes. En les voyant, Paul a remercié Dieu et pris courage. Donc vous voyez, c'est la fin de ce verset qui peut résumer le message que le Seigneur voudrait ce matin que nous ayons ensemble. Il veut que nous puissions être toujours de ceux qui sont reconnaissants au Seigneur. Il y a toujours, toujours une raison pour être reconnaissant à Dieu. Et il y a toujours une raison de prendre courage, parce que nous avons avec nous celui qui est Dieu, le Dieu Tout-Puissant, celui qui sait tout, celui qui peut tout, et celui qui veut le meilleur pour nous, celui qui est de notre côté. Vous savez que Jésus, quand il est venu sur la terre, il a accompli une prophétie, on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie « Dieu avec nous ». Mais moi, je crois que souvent, quand on dit Dieu avec nous, ça veut dire simplement Dieu au milieu de nous. Non, c'est Dieu pour nous, de notre côté. Donc, si on a le Seigneur de notre côté, qu'est-ce qui peut nous empêcher d'aller de l'avant, de progresser, d'avancer, de prendre courage, puisqu'il est la source de toute force, il est la source de tout courage, il est la source de toute bonne volonté, etc. Voilà pourquoi nous voulons ce matin, eh bien, déjà nous mettre dans cet état d'esprit, dans cette disposition de cœur, être tout le temps reconnaissant et vouloir continuer ou repartir de plus belle avec le Seigneur et aussi pour le Seigneur. Je trouvais que c'était une belle définition pour notre culte ce matin, rendre grâce et prendre courage. J'espère que vous êtes venus pour rendre grâce, dire merci au Seigneur. Il a fait et il fait tellement pour nous, mais aussi eh bien devant la réalité, parce que tout à l'heure nous allons sortir et affronter le monde, affronter les circonstances, prendre courage. Voilà les deux choses que Dieu nous propose. Non seulement pour ce culte, mais aussi pour toutes nos rencontres de chaque semaine, venir pour rendre grâce et venir pour prendre courage. Parce que c'est en lui que nous pouvons prendre courage. Alors, qu'est-ce qui a permis à Paul de nous donner ce thème, de nous donner cette exhortation? Paul avait un projet, celui d'aller à Rome. Et il le dit là dans ce passage, il le dira aussi un peu plus loin dans Romains 15. Il parle de ce désir d'aller voir ses frères de Rome qu'il ne connaît pas. Un but noble, un désir profond. C'est ce qui va l'amener d'ailleurs à écrire cette belle épître aux Romains, qui est un exposé de doctrine particulier avec l'inspiration du Saint-Esprit. Paul propose... Mais Dieu dispose. Et souvent, ça, on l'oublie. Nous, on voudrait que Dieu propose et que nous, on dispose. Non, mais c'est lui qui est le maître. C'est lui qui est le Seigneur. C'est lui qui a autorité. Nous avons chanté tout à l'heure qu'il règne. S'il règne, ça veut dire que c'est lui qui est le maître. Et heureusement, frères et sœurs, que c'est Dieu qui dispose. Heureusement que c'est Dieu qui décide. Heureusement que c'est Dieu qui conduit. Parce que nous ne savons pas prendre les bons chemins, les bons itinéraires, les bonnes décisions. C'est le Seigneur qui le fait. C'était facile à cette époque d'aller à Rome en ce temps-là parce que l'Empire romain était bien structuré et toutes les voies pouvaient conduire à Rome. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on a dit que tous les chemins mènent à Rome. Il y a des fois des gens religieux qui disent « Oui, tous les chemins mènent à Rome. » À Rome, oui, mais pas au ciel. Le seul chemin qui mène au ciel, c'est Jésus. Il n'y en a qu'un seul, pas tous les chemins. Donc c'était facile. Paul va passer par le chemin que Dieu a tracé pour lui et non pas celui qu'il avait lui envisagé. Et c'est après bien des péripéties que Paul va recevoir dans une vision que le Seigneur est d'accord. Parce que jusque-là, il dit, j'ai envie, je voudrais voir les frères et sœurs de Rome, j'ai envie de leur communiquer quelques dons spirituels, de partager les bénéfices de son ministère. Il voulait, vivre quelque chose, une bénédiction avec eux, et aussi recevoir de leur part, mais jusque-là, il avait été empêché. Mais, à un moment donné, dans une vision, il reçoit de Dieu la confirmation que il ira à Rome. Il ne sait pas encore de quelle manière, dans quelles conditions. Mais pour Paul, l'important, ce n'est pas de savoir par avance. La foi n'essaye pas de savoir par avance. La foi, c'est un pas à la fois. On avance un pas à la fois. Et si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? On n'a pas besoin de savoir. Le chemin est assuré. Même si quelquefois, en posant le pied de la foi, ça nous semble un peu comme Pierre qui a posé le pied sur le lac, si c'est par la foi, si c'est selon la parole de Dieu, si c'est sa volonté, ça tiendra et on avancera. C'est ça qui est important. Donc, confirmation du désir qui va donner à l'apôtre la paix et la sérénité dans toutes les expériences mouvementées. Parce que même quand il va recevoir l'assurance qu'il ira à Rome, ça ne va pas se faire dans des circonstances faciles. C'est pas une croisière, c'est pas un voyage organisé. Complot des Juifs, comparutions diverses devant des tribunaux, prison, naufrage, arrêt forcé à Malte. Ah, vous allez dire là, peut-être c'était bien, il fait un petit détour par une île. Non, l'arrêt forcé, c'était pas extraordinaire, n'est-ce pas? Enfin, Rome, mais en tant que prisonnier. Rien à voir avec le projet que Paul avait au départ. mais Dieu, lui, tient toutes choses dans sa main. Alors oui, nous pouvons dire que nos projets, nos plans pour le Seigneur sont bons, sont légitimes. Nous devons en avoir des projets pour le Seigneur. Mais c'est lui qui choisit l'itinéraire, c'est lui qui choisit le temps, c'est lui qui choisit les circonstances. À un certain Pierre, Jésus dira dans Jean 13, 7, « Ce que tu ne comprends pas maintenant, tu le comprendras plus tard. » Et il y a plein de choses comme ça dans notre vie chrétienne que nous ne saisissons pas sur le moment. Et puis au fur et à mesure que nous avançons, toujours en faisant confiance au Seigneur, nous disons « ah oui, c'est comme ça, le Seigneur me l'avait dit, le Seigneur m'avait préparé. » Et on comprend que Dieu a toujours raison au-dessus de nous. Mais cette vision donc d'aller à Rome et de vouloir communiquer quelque chose à ses frères et sœurs, de faire leur connaissance et de bénir le Seigneur ensemble, cette vision va demeurer. Malgré les difficultés, malgré les problèmes, malgré toutes les choses qui peuvent être là, la vision, elle demeure. Quand Paul écrit, il est déjà un homme rempli d'expérience et un homme qui a déjà porté beaucoup de fruits dans son ministère, dans sa vie chrétienne également. D'ailleurs, est-ce qu'on peut séparer la vie chrétienne du ministère? Parce qu'avant d'être un pasteur, un prophète, un évangéliste, on est un chrétien avant tout, et on doit le rester encore plus. Voilà. Donc, portant de nombreux fruits, puisque nous sommes tous invités à porter du fruit qu'il veut partager. Donc, la vision demeure, même si le temps passe. Même si le chemin qu'il prend pour aller à Rome, Dieu lui fait faire des détours et des contours, la vision demeure. Je veux aller voir ses frères et sœurs et partager avec eux. Pas de lassitude, j'allais dire, pas comme tout bon français, il râle pas. Il ne râle pas, non. Je suis français, alors je peux le dire. Pas d'égoïsme dans tout ce qu'il écrit, on le voit bien. Pas une vision non plus qui rétrécit. Ah ben peut-être que le Seigneur ne veut pas. Non. Il reste pleinement imprégné de cette volonté et de cette vision que Dieu lui a donnée. Dans Romains 15, 29, il est dit, c'est avec une pleine bénédiction de l'Évangile que j'irai chez vous. Vous voyez donc, le temps a passé. Hein, et bien des choses vont encore se passer. Mais il dit, c'est avec une pleine bénédiction de l'Évangile que j'irai chez vous. Parce que rien ne peut diminuer la vision que Dieu nous donne dans la vie chrétienne. Rien ne doit diminuer ou rétrécir la vision. Quelle est notre vision? Notre vision à nous, c'est le ciel. Et rien ici-bas ne doit rétrécir cette vision. Rien, eh bien, ne doit contrecarrer, rien ne doit justement abîmer cette vision. Nous devons garder les yeux fixés sur cette promesse. Hein. Tout à l'heure, notre frère a parlé de promesse. Oui, c'est ça qui nous donne la force, le courage, la persévérance. Toutes les tribulations n'ont pas été capables de triompher de cette paix et de cette assurance. Est-ce avec une pleine assurance de bénédiction que nous vivons la vie chrétienne? Nous savons que des choses d'ici-bas nous en manqueront toujours. Nous n'aurons pas peut-être tout ce que nous aurions aimé avoir ici-bas. Quelle importance! Pourvu que nous ayons les promesses d'en haut. Parce que celles-là, elles demeurent, et toutes les richesses d'en haut, elles demeurent, et personne ne pourra nous les prendre. Ce qui est bien aussi, c'est que Dieu va se servir de Paul en route. Malgré les épreuves, les tribulations, Dieu se sert de son serviteur. Parce qu'il est toujours disposé, il est toujours disponible entre les mains de Dieu. Quelquefois, nous, en attendant que Dieu accomplisse une promesse qu'il nous a faite ou quelque chose de particulier qu'il nous a donné, quelquefois nous sommes tellement concentrés sur ça que, eh bien, nous attendons un peu passivement. Non, Paul, lui, eh bien, il est en route pour Rome. L'objectif, donc, c'est Rome. Mais Dieu, il va se laisser utiliser par Dieu en route. Cela nous fait penser à Jésus, dans Luc 8, vous savez, il est en route pour guérir la fille de Jaïrus, mais il prend le temps de s'occuper de la femme à la perte de sang. C'est le Seigneur, il est multitâche. Il sait tout faire en même temps, et c'est ça qui est extraordinaire. Quelquefois, nous, on pense que Dieu est tellement occupé qu'il ne nous entend pas, il y a trop de choses. Non, 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 il est capable. Eh bien, pour nous aussi, tout en vivant ou en attendant même une expérience ou plutôt une promesse de Dieu, ben le Seigneur peut et veut aussi nous utiliser. Paul a été une bénédiction en route pour ses compagnons de voyage. Vous savez que c'est grâce à lui que 276 personnes ont été sauvées d'un naufrage. À cause de sa foi, à cause de sa consécration et à cause du plan de Dieu pour lui, ben Dieu va sauver aussi physiquement. Et certainement que c'était une occasion aussi de leur montrer que Dieu voulait les sauver spirituellement, mais 276 personnes. C'est extraordinaire, hein. Merci Seigneur pour cette double bénédiction. En nous sauvant, en faisant de nous ses enfants, il fait de nous aussi une bénédiction pour notre entourage. Ça leur sert de témoignage, ça leur sert de voir que Dieu leur tend aussi la main. Après, c'est à eux, bien sûr, de saisir. Ne passons pas à côté de ces multiples occasions de bénédiction à donner ou à être pour les autres pendant notre voyage ici-bas, pendant notre attente de l'exaucement d'une promesse de Dieu. Quand on a voulu aller en Lozère, à Marvejols, le Seigneur nous a fait passer par Narbonne pendant 3 ans. C'était pas du tout le chemin, hein. C'était le chemin contraire. Hein. Pour aller en Lozère, il fallait monter de Montpellier vers Clermont. Mais là, on est descendu un peu plus, on a longé la Méditerranée. Ben, Dieu le voulait ainsi. Et souvent dans la vie, eh bien, il peut y avoir ce genre de manière de faire du Seigneur. Mais l'important, c'est de lui faire confiance. Avec lui, on n'est jamais en retard et on n'est jamais en avance. On est toujours à l'heure. Le problème, c'est que nous, on est soit en avance, soit on est en retard. Hein? On veut toujours devancer le Seigneur ou alors on traîne derrière. Mais non, il faut être à l'heure de Dieu. Et quand on est à l'heure de Dieu, eh bien, les choses se font comme elles doivent se faire. Non pas sans difficulté, non pas sans problème. Mais les choses se font dans la paix, dans la joie. Et c'est ce qu'on ressent de cette expérience de l'apôtre Paul. Donc rappelons-nous que Dieu veut faire de nous une bénédiction en route. Même si Dieu nous promet par exemple une guérison parce qu'on a une maladie, et s'il nous fait passer par l'hôpital, eh bien il peut nous bénir en route. Parce qu'à l'hôpital, on peut être à côté d'une personne qui va entendre notre témoignage. Je parle de cette circonstance comme dans n'importe quelle autre circonstance où Dieu, donc, veut nous utiliser. Moi, j'ai un beau-frère qui attend d'être parfait pour se donner à Dieu. Eh bien, il peut attendre même toute l'éternité, quoi. Hein? Voilà. C'est en se donnant au Seigneur tel qu'on est qu'il va, justement, nous transformer. Ou alors... Eh bien, j'ai une sœur, elle croit que, eh bien, normalement, Dieu devrait nous donner tout. C'est-à-dire, on ne tombe plus malade, on n'a plus de problème, on a tout ce qu'il faut. Mais ça aussi, c'est pas garanti. Dieu ne nous a pas promis cela. Il a promis d'être avec nous, d'être pour nous, mais pas de nous gâter. Non, non. Mais il a promis de prendre soin de nous. Et en même temps donc, de faire de nous une bénédiction quand nous sommes en route. Nous avons besoin de nos frères et sœurs. Est-ce que vous le croyez, ça? Eh oui, il y a de plus en plus de gens maintenant qui ont une église sur Internet. Comme ça, ils restent à la maison, peuvent faire la grâce matinée. On peut même rester dans le lit, en pyjama. Enfin, voilà. Et puis avoir la télé. Oui, ben. Et puis vivre le culte sur Internet. Pour ceux qui ne peuvent pas se rendre dans une assemblée, c'est une bonne chose, vous voyez. On n'est pas contre, hein, voilà. Mais on a besoin du contact de ses frères et ses sœurs. C'est ce que Paul a dit au départ. Ce qui l'a motivé à aller à Rome, c'est pas pour faire du tourisme. Surtout qu'à Rome de l'époque, c'était pas glorieux, hein. C'était une ville particulière. Non, non. C'était pour rencontrer ses frères et ses sœurs dans la foi. C'était pour partager avec eux cet amour de Dieu, cet amour de Dieu et cet amour pour Dieu. Après ces journées, ces moments difficiles que Paul a pu souffrir, il arrive en Italie. Il est dit que des frères viennent de Rome. Vous savez combien ils ont fait de kilomètres à pied? 70 kilomètres. Vous vous imaginez en train de faire 10 kilomètres à pied? On aurait du mal aujourd'hui, hein, n'est-ce pas? Déjà, dès qu'on dit il faut marcher à pied, on a comme des freins, là, des aérofreins qui se mettent en place. 70 kilomètres, ils ont fait pour aller à la rencontre de Paul. Voilà aussi des frères et sœurs qui avaient envie de voir l'apôtre Paul. Est-ce que nous sommes animés de cet amour fraternel lorsque nous venons avec nos voitures et nous venons dans les rencontres? Est-ce qu'il y a cet amour fraternel? Pierre disait que nous devons nous aimer ardemment. Ça doit brûler. On ne devrait même pas y avoir besoin de chauffage. Hein? On doit être des radiateurs, des radiants. Tout à l'heure, on a parlé de rayonner. Oui, ben, en tout cas, ils ont fait 70 kilomètres. Hein? Quelle réunion! Quelle réunion! Pourtant, ils n'avaient pas le même arrière-plan que Paul. C'était des Romains, donc des gens qui étaient là. Enfin, c'était des Juifs qui habitaient à Rome. Pas le même arrière-plan. Ils n'avaient pas le même cheminement. Ils n'étaient pas passés par où Paul était passé. Ils n'avaient pas les mêmes connaissances, les mêmes capacités que l'apôtre Paul. Mais Paul ne vient pas dans un sentiment de supériorité. Je suis le super apôtre, je suis le grand missionnaire. Non, non. Il vient comme un frère en Christ. Et c'est cette simplicité, cette humilité qui fait chaud au cœur. Et qui nous permet, nous aussi, frères et sœurs, lorsque nous nous retrouvons ici ou ailleurs, lorsque nous allons à la rencontre d'autres frères et sœurs, c'est ça qui fait la chaleur, c'est ça qui fait l'affection, c'est ça qui fait la tendresse, c'est ça qui fait la joie. Paul était un colosse spirituel, un géant, mais en même temps, donc, c'est dans la joie et dans la simplicité qu'il va se retrouver au milieu d'eux. Après tant d'années d'attente, et en évoquant les batailles spirituelles qu'il a pu rencontrer, hein, tout à l'heure j'ai cité, mais il y en avait beaucoup plus, il est dit, il rendit grâce à Dieu et reprit courage. Oui, il avait besoin de reprendre courage. Et c'est en voyant ses frères et ses sœurs, enfin là il n'y avait que des frères apparemment, hein, il n'est pas dit qu'il y avait des sœurs, mais je crois que quand on est marié, hein, quand l'homme ou la femme se déplace, il y a les deux. Enfin ça doit être comme ça. Hein. Quelle noblesse d'âme et quelle humilité de l'apôtre. Il va retirer de cette première rencontre, de cette communion fraternelle, eh bien le courage. On sait aussi pourquoi. Qu'est-ce qu'il attend à Rome? C'est le jugement, c'est la prison. Et là encore, Dieu va se servir de lui, puisqu'on sait que quand Paul va être en prison à Rome, toute la caserne de l'époque et tous les quartiers autour ont été touchés par son ministère et son témoignage. Vous voyez? Il n'y a aucune circonstance qui peut empêcher Dieu de faire son œuvre, non seulement en nous, mais aussi au travers de nous et aussi autour de nous. C'est pour ça que Dieu sait mieux que nous ce qu'il faut. Des fois, nous, on voudrait qu'il y ait toutes ces circonstances, qu'il y ait tous les critères, tout ce qu'il faut pour ceci, pour cela. Non, non. Faisons confiance au Seigneur. Pour Paul, Rome n'est pas la capitale orgueilleuse et redoutable. Mais pour Paul, Rome, c'est ces hommes-là, ces frères et sœurs qui sont méprisés, qui vivent dangereusement. Il faut dire qu'à l'époque, être chrétien à Rome, c'était pas aussi facile qu'à Moissac, hein. C'était bien plus difficile. On pouvait être arrêté, on pouvait être tué, on pouvait subir toutes sortes de choses. Et quand Paul dit « je veux aller à Rome », tout à l'heure je le disais, c'est pas pour faire du tourisme, mais c'est pour se réjouir de savoir que là aussi, dans ce milieu aussi mondain que l'était à l'époque cette ville de Rome, il y avait aussi des hommes et des femmes qui appartiennent à Dieu, qui confessent le beau nom de Jésus et qui vivent, non seulement qui confessent, mais qui professent la foi en Jésus, en ce Dieu extraordinaire. Ils ne se connaissaient pas, mais ils se reconnaissent. Ça vous est arrivé certainement, comme à nous, hein, d'aller dans des villes, dans des assemblées qu'on ne connaît pas du tout, où on n'a jamais mis les pieds parce que bon, on passe par là et on s'arrête, et puis on se sent, on a l'impression qu'on connaît les gens. Ben oui, parce qu'on fait partie de la même famille. On ne se connaissait pas, mais on se reconnaît. Et c'est ça qui est formidable avec le Seigneur. Ils se reconnaissent dans la louange à Dieu et dans l'encouragement mutuel. Voilà ce que Dieu voudrait ce matin que nous retenions, non seulement pour aujourd'hui, mais pour tous les jours. Nous arrivons à la fin de cette année 2017. Vous êtes d'accord avec moi pour dire que ça passe vite. Ça passe très vite. Donc, on comprend quand la Bible dit « rachetez le temps hein? ». Saisissons toutes les occasions pour rendre grâce, pour se faire du bien ensemble, pour s'encourager et pour aller de l'avant. C'est ce que Dieu veut pour chacun de nous. Que son nom soit béni. Amen.